France Musique. France Musique, les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Hopkinson Smith, je suis né à New York en 1946 et je suis musicien.
Passer les étés avec Emilio Pujol, quand même, peut-être parler un petit peu plus de lui, parce que c'est un homme qui a traversé le siècle, qui est né dans les dernières années du 19e et qui meurt dans les dernières années du 20e siècle. Il a vécu très longtemps, un élève de Targa.
Oui.
Lui, sa manière d'enseigner, qui, vous le disiez, était très proche peut-être aussi des autres arts, c'était ça aussi la richesse de l'enseignement de Pujol?
Je ne sais pas si je suis capable vraiment de l'exprimer. Mais il voyait l'art avec majuscule comme notre obligation et notre voie et notre chemin et notre défi. Il parlait avec tellement de passion que je dis toujours que même si on était écrivain ou poète ou artiste, peintre, si tu étais à côté de lui, tu prenais une énergie positive très profonde. Oui, c'était une des figures plus importantes dans ma vie, quoi. Et mon deuxième fils, Samuel, s'appelle Samuel Pujol Smith. C'est après qu'il est mort que Samuel est né. Et donc, on a pris le nom. Qui est, pour un Espagnol, c'est un peu bizarre, mais pour nous, c'était très la bonne décision. Et pour la baptême de Samuel, c'est la veuve de Maestro Pujol qui est venue.
Viola, Pujol, il joue sur quel instrument?
À cette époque-là, les premières tentatives vers les instruments anciens étaient les instruments modernes. Donc, la vihuela qu'il avait, il avait plusieurs vihuelas, mais une qu'il préférait, c'était faite par Fleta, Ignacio Fleta, qui est un des meilleurs constructeurs de l'époque, qui était à Barcelone aussi. Donc, c'est comme une guitare de 12 cordes, qui pour nous, de nos jours, semble très lourd et un peu incommode. Mais Pujol avait aussi une vihuela faite par Arnold Dolmetsch, l'anglais. Mm-hmm. Une fois, quand on avait un des premiers concerts de Hesperion 20 à Barcelone, donc Pujol et sa femme, ils sont venus, ils vivaient encore. Le lendemain, je suis allé chez lui. Il a habité dans un appartement très étroit, très sombre, pendant beaucoup d'années sans électricité, dans la partie de Gracia, à Barcelone. Donc je lui ai montré ma vihuela, j'ai joué un peu pour lui, il était fasciné. Oui. Donc ma vihuela qui est plutôt très légère en construction. Et si un instrument est légère en construction, ça t'aide à mettre les cordes plus fines. Avec les cordes plus fines, donc, on a moins de puissance peut-être, mais plus de résonance. C'est toute une chose de l'esthétique, mm-hmm. ce qu'on considère l'esthétique du XVIe siècle. Mais il faut dire aussi qu'il y avait plusieurs esthétiques. Il n'y a une seule solution. Il n'y a pas une seule vihuela, ni un seul luth renaissance, mais il y avait une variété selon les goûts et les mœurs musicales. Des différentes régions.
ce que vous nous dites aussi de Pujol, on le sent, c'est aussi une manière de penser l'artiste comme responsable dans la société.
C'est ça. Et qu'on a un devoir à maintenir bien ces choses-là et de les faire partager.
Oui. On vous sent quand même très proche de la culture espagnole. C'est une langue que vous parlez. Il y a quelque chose de très intime pour vous.
Il y a aussi une fraternité de la guitare, qui est aussi un instrument très social, on peut dire, mais qui à la fois a une sensibilité spéciale qui réunisse les gens et que c'est un peu à part comme instrument. Il y a moins de musique d'ensemble que les autres instruments, mais quand même, il y a quelque chose de spécial. Et naturellement, Pujol était élève de Francisco Tárrega. C'est-à-dire, c'est quelqu'un avec les pieds dans le 19e siècle et qui apporte beaucoup de bon de cette concentration et de cette passion spéciale qu'on sent aussi si on met un disque du début du siècle, 20e siècle. Par exemple, il y a quelquefois un focus dans la production de son et une clarté en expression, une nervosité qu'on aimerait bien imiter.
Début des années 70, 1973 très exactement, vous allez traverser l'Atlantique, au départ pas forcément pour très longtemps, mais enfin maintenant on se retrouve quand même chez vous à Bâle et ça fait quand même quelques années que vous habitez là. Ouais. Il y a une véritable décision en 73, la musique, la pratique musicale, la musique ancienne, ce sera votre vie, c'est très clair à ce moment-là.
C'était déjà clair quand je suis arrivé en 73. Mais ce que c'est devenu plus clair, c'est que l'Europe est ma maison. Parce que l'impulse venait d'Europe à cette époque-là. Et on peut dire qu'en principe, toujours l'impulse, les nouveautés anciennes, viennent toujours de l'Europe. Et donc, j'ai eu plusieurs opportunités pour jouer. J'ai fait mes premiers enregistrements. Le rencontre avec Jordi Savall et Montserrat Figueres, ça avait été très important pour moi. J'avais une activité de luthiste, musicien de musique de chambre que je n'aurais jamais eu aux États-Unis et qui me plaisait beaucoup. C'était un peu le rêve vécu.
Le rêve éveillé.
Éveillé.
Et quand vous arrivez en Suisse, à Bâle, vous arrivez aussi pour suivre l'enseignement d'Eugène Dombois.
Voilà.
Ça, c'est aussi une personne importante. Qu'est-ce qu'elle, elle vous apporte? Après Pujol, oui. Après John Ward à sa façon, oui. Après toutes ces personnes qui avaient déjà compté dans votre
très
galaxie.
Bien. C'est le début pour moi de quelque chose que j'avais eu besoin, envie de suivre un certain temps, qui était le luth baroque, l'évolution de l'instrument au 17e, 18e siècle, avec un accord différent, avec des techniques différentes, avec un répertoire énorme et très différent de ce que j'avais joué jusqu'à cette époque-là. Et donc, Dombois était très bien pour me calmer un peu, parce que j'étais encore plus impulsif et énergique Et donc, il m'a dit, mais écoute ce ton, cette note. Et donc, si c'est la première note, il faut que ça sonne avant que tu attaques les autres. Et donc, finalement, c'est pas que la première note, c'est toutes les notes. Il faut bien les comprendre. Il avait une paix, une gentillesse musicale qui était très important pour moi d'essayer de comprendre.
Parce que vous étiez pas comme ça?
J'étais plus impulsif. J'avais pas toujours la patience pour écouter comme ça. Et ça, c'était une chose très importante pour moi.
Et il y a aussi la manière, je crois, qui était assez propre à Dombois, qui était aussi véritablement de voir la musique comme quelque chose d'organique, c'est-à-dire il y avait l'instrument, la pratique musicale, mais l'histoire, et de véritablement faire un lien entre l'interprète, la musique et l'histoire avec un grand H. Ça aussi, cette façon de conjuguer.
Il était très conscient de la relation de quelqu'un avec l'instrument. Si on était trop nerveux, qu'il fallait trouver une manière de jouer cette composition pour que la beauté a une chance de sortir. Et si quelqu'un est très nerveux, par exemple, même si la pièce est moitié de lenteur, d'essayer de réussir à faire quelque chose de beau, faire quelque chose d'organique qui correspond à ton état d'âme.
C'est difficile, ça aussi, de trouver la justesse à cet endroit-là. Ça demande une certaine maturité.
Oui, oui, ça, c'est quelquefois la leçon qui revient. C'est quelque chose qui peut t'accompagner toute la vie, c'est-à-dire de chercher cette justesse intérieure.
Vous avez évoqué rapidement la rencontre avec Jordi Savall et Montserrat Figueras, qui évidemment est une rencontre très importante. Eux se trouvent aussi ici, à Bâle?
Oui, oui, ils habitaient ici à Bâle, à l'époque.
On est au milieu des années 70?
Oui, et on avait commencé à jouer ensemble. Il y avait quelques concerts. Il y avait Madame Chambure, à Paris, qui avait ses musiciens préférés, dont Jordi, et une série de concerts un peu partout en Europe. Et ça, c'était formidable pour moi. J'ai beaucoup appris. Et Jordi a un sens naturel d'éloquence que je crois que m'a beaucoup, certainement influencé aussi.
Vous avez fait de la viole avec lui ou pas du
non,
tout?
Non, 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 non. La viole, c'était un chapitre avant.
Lui, il a quand même pas mal appris la viole en autodidacte, d'une certaine façon, et beaucoup sorti la viole de l'oubli. et vous, de façon concomitante. Oui. Évidemment, vous avez eu des professeurs, mais enfin, vous avez aussi beaucoup appris par vous-même pour le luth et sorti aussi, quand même aussi, beaucoup le luth d'une certaine façon de... pas de l'oubli, mais enfin, quand même, vous avez vraiment participé parce que c'est aussi cette époque hein, qui voit la renaissance et la floraison de tout ce répertoire ancien.
Ouais. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir pour redonner la vie.
Quand c'est cette période-là, donc la jeunesse d'Hespérion XX, vous n'êtes pas le musicien qu'on connaît davantage aujourd'hui, soliste. Vous jouez la musique d'ensemble.
Oui, oui. Et à cette époque-là, j'avais très, très peu de musique, de concerts à lutte seule. Et j'adore la musique d'ensemble. Mais j'avais une envie intérieure d'exprimer cet énorme répertoire qui devenait de plus en plus clair que c'est ça que avant tout, je voulais faire. Et donc, j'ai fait une transition vers la musique soliste. Aussi, je dois dire que si je voulais jouer cette musique en soliste, comme j'imaginais que c'était possible de le faire, il fallait que je dédie énormément plus de temps à ça. Et c'est ce que j'ai pu faire grâce à la place d'enseignement ici à la Scola, qui quand même donne une base économique pour la vie et qui te laisse cultiver la vie d'artiste de ta façon. Et donc, il y a beaucoup de découvertes avec les différents instruments et de temps en temps. Et donc, j'ai essayé, une fois j'ai lu que Casals, il avait chaque année vraiment un programme soliste et un programme de concerto. Et je crois que c'est un très bon modèle. Je n'ai pas pu toujours suivre ce modèle, mais c'est ce que j'aime bien faire, d'avoir un programme que je recherche, que je trouve, que je quelquefois où je crée la version que je veux jouer et de travailler beaucoup la technique, pas dans le sens mécanique, mais dans le sens recherche, c'est-à-dire entre sonorité, mouvement des doigts et résultat musical, c'est-à-dire que c'est une partie de la vie de soliste aussi.
Sur cette période que vous passez au début d'Hespérion XX, juste nous faire part peut-être de cette effervescence, de ce rêve éveillé dont vous parliez, oui. C'est-à-dire cette période de redécouverte. Vous êtes avec vos microfilms que vous avez apportés d'Harvard, peut-être avec vous, cette période où vous allez dans les bibliothèques. Comment se passe aussi la redécouverte de ce répertoire, son écriture, la manière de le partager ensemble?
Ok, c'est deux, trois choses. Ensemble ici, il y a la recherche des sources, la collection des tablatures originales, parce que presque toute la musique de luth, c'est écrit en tablature, qui est un système de comment on met les mains sur l'instrument. Donc ça était toujours une partie de ma vie, mais le début de ça était toujours aux États-Unis, et la collection, la Isham Microfilm Library à Harvard. Et je dois dire, il y avait une très belle chose à Harvard. Comme il y avait beaucoup de gens qui ont travaillé la musique de la Renaissance, il y avait une bibliothèque de microfilms énorme. Donc, presque chaque livre de luth du XVIe siècle se trouvait en microfilm dans la bibliothèque. Et il y avait un système auquel on pouvait prendre le microfilm, de faire imprimer. Et j'ai toujours pas mal d'exemplaires du livre original de la Renaissance qui consiste en reproduction faite du microfilm. Et le début de Espérer en vain, c'était préparer plusieurs concerts avec la musique espagnole de la Renaissance. Et c'est-à-dire Jordi Montserrat avait une grande envie d'attaquer le répertoire séfardite. Et donc, on a fait ces deux choses. Il n'y avait pas de nom d'un ensemble, il n'y avait pas de disque. Au début, il y avait des concerts ici et là. Et puis, on avait l'opportunité d'enregistrer deux disques, une avec la musique juive, une avec la musique chrétienne, qui sont sortis ensemble. Et ça, c'était vraiment le début de l'ensemble Espérion. Et c'est le nom qui Jordi avait trouvé, qui est resté. Et donc, il y avait un moment pour moi de grande découverte et d'intensité humaine et musicale qui a envahi mon monde. Et donc, avec de grands accords de ma part. Et donc, ces moments de répétition qui allait jusqu'à très tard la nuit, de partager le repas et le vin ensemble. Et à l'époque, Jordi, il mangeait toujours de viande. Il n'était pas encore végétarien. C'est un petit détail. Et donc, ça nous a donné beaucoup d'énergie et beaucoup d'impulse de continuer et de vraiment de vivre une vie en musique d'autres formes.
C'est avec le prélude de la suite en ré mineur de Marin Marais par Jordi Savall, Christophe Coin, Hopkinson Smith et Ton Kopman que se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec Hopkinson Smith. Réalisation François Connac, prise de son Virginie Lorda, mixage d'Ofar Guérid, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur l'application Radio France. Thank you.
À réécouter sur francemusique.fr.